ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce la vérité?
Pourquoi?
RFI.
RFI.
Pourquoi RFI dit ça? Julia Trangeval.
Bonjour. Pourquoi RFI publie-t-elle les témoignages d'Africains envoyés sur le front ukrainien pour combattre du côté de la Russie? Des Africains qui ont quitté leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure, pensant trouver un emploi, et qui en fait ont été trompés. Cette histoire, c'est une histoire importante, une histoire grave, qui nous parle de violation des droits humains. Et vous ne vous y êtes pas trompé. Le témoignage recueilli par François Mazet du Service Afrique a été très suivi. Il est resté à la une du site internet toute la journée du 15 janvier, jour de sa diffusion. Il a aussi été très commenté.
J'ai vu des gens se tirer dans la main parce qu'ils veulent pouvoir fuir à l'hôpital. Là-bas, tu vois des centaines de corps pourrir au sol, tu marches dessus. Je me suis caché au milieu de corps humains pour éviter les drones. Les Russes, eux, restent au camp. Ils envoient les Noirs, ils envoient les internationaux devant. Ils disent « Vous devez avancer, les Russes ne reculent pas ». Et si tu tentes de reculer, ils vont te torturer. Ils sont nombreux qui ont fait 2 ans ici. Ils n'ont jamais vu un Ukrainien avec leurs yeux. Ils n'ont jamais tiré une balle sur une personne. Parce qu'il n'y a même pas d'ennemis. On se bagarre contre des mines, contre des drones. Ça frappe, ça vous tue.
Cet homme, nous l'appellerons Samuel, a choisi de raconter dans quelles conditions se trouvent les combattants africains sur le front ukrainien. Et il a voulu lancer une mise en garde à ceux qui seraient tentés par l'aventure.
Beaucoup d'Africains sont en train de prendre la route pour la Russie. On est en train de les utiliser, de leur mentir, parce qu'ils sont nombreux qui viennent sans savoir où ils vont. Je veux que ça s'arrête. Je ne veux plus que des Africains viennent mourir ici, parce que ce qu'il se passe, c'est un trafic. Nous venons mourir dans une guerre, nous ne savons même pas comment elle a commencé.
Ce témoignage, certains ont essayé de l'invalider. Manipulation, fake news, mensonges, sur les réseaux sociaux, nous avons reçu très vite de très nombreux messages. Je vous en cite quelques-uns seulement. La France et les médias français, c'est très dangereux pour la santé, nous dit Yaovi Akata. Sayou Barima juge que venant de RFI, ce n'est pas étonnant. Et Objectif Plus nous écrit qu'il s'agit d'une fausse information des Occidentaux. Des commentaires de cet acabit, il y en a des centaines sur la page Facebook de RFI. François Mazet du Service Afrique et Laurent Corot, rédacteur en chef au Service Afrique, sont avec nous cette semaine. François, d'abord, il faut peut-être rappeler l'essentiel de votre enquête.
Alors cette enquête, c'est d'abord un récit, le récit de Samuel, qui est un jeune homme de Yaoundé en recherche d'une vie meilleure, comme beaucoup de Camerounais et beaucoup de jeunes Africains, qui a eu l'opportunité de partir en Russie sur la base d'une promesse d'emploi. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que cette promesse d'embauche l'emmènerait jusqu'au front ukrainien. Il s'est passé quelque chose qui est maintenant bien documenté, c'est-à-dire qu'on appâte des gens avec ces offres d'emploi. Souvent, on leur dit que ça va être du gardiennage ou ce genre de choses. Et finalement, ils se retrouvent dans un camp militaire. On leur fait endosser l'uniforme, on leur fait prendre la Kalachnikov, on leur donne une assez brève formation militaire, quelques semaines tout au plus, et ils partent au front. Derrière, il y a une stratégie, la stratégie de la Russie, qui est d'avancer au maximum en Ukraine en vue d'être en position de force pour des négociations. Et ça, ça demande des moyens humains très conséquents. Or, l'acceptabilité sociale de la guerre auprès de la population russe demeure limitée. Et donc, l'alternative, c'est d'aller chercher des bras ailleurs, de la chair à canon, et de les mettre en première ligne pour gagner un maximum de kilomètres carrés. Et moi, je trouve que ce témoignage, il reflète les difficultés de beaucoup de jeunes Africains, des jeunes diplômés sans emploi, souvent. On sait que les pays africains en produisent par centaines de milliers chaque année. Et là, Samuel, c'est ça, c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures, qui a un diplôme scientifique, qui n'a pas trouvé d'emploi à sa convenance et qui donc vivotait en installant des climatiseurs. Et avec un de ses amis qui était quand même un père de famille, ils ont trouvé cette possibilité de partir en Russie via une agence. Donc ça veut dire qu'il y a tout un réseau derrière. Et bah, son ami est mort au front et Samuel, voilà, lui est toujours là-bas, même si on est sans nouvelles de lui.
Comment est-ce qu'on réalise une enquête de ce type ? Comment est-ce que vous avez rencontré Samuel ? Est-ce qu'on peut parler de ça ?
Il y a eu toute une chaîne en fait en disant bah, y a, je connais telle personne qui est là-bas. Ce numéro est arrivé jusqu'à moi, on me disait ah, ça serait bien que vous parliez avec lui. À ce moment-là, il n'était pas très clair qu'il était encore sur place. Moi, honnêtement, je croyais que c'était quelqu'un qui était sorti, qui avait pu partir. Dans les premiers échanges, je me suis rendu compte que non, il était toujours dans l'est de l'Ukraine. C'est lui qui a dit bah, « je ne sais pas combien de temps je serai là-bas, je ne sais pas si je m'en sortirai, donc il faut absolument qu'on en parle ». Et puis finalement, après plusieurs semaines sans avoir de contact, voilà, on s'était dit « si vous n'avez pas de nouvelles de moi, il faut sortir l'article ». Donc au bout de plusieurs semaines, je me suis effectivement décidé à faire paraître son récit.
Alors, c'est un sujet important, ça j'imagine, quand on commence à travailler dessus, on réalise pleinement. Mais est-ce que vous réalisiez que ça allait susciter autant de passion de la part de nos auditeurs ?
Bah, tout ce qui a trait à la Russie crée un niveau d'engagement très important, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que évidemment, il n'aura échappé à personne que la Russie est à l'offensive en Afrique depuis de nombreuses années. Elle s'est très bien implantée en République centrafricaine. Elle s'est très bien implantée dans plusieurs pays du Sahel. Et ça s'est fait en parallèle avec un désengagement français dans les conditions que l'on connaît. Et aussi avec toute une guerre informationnelle autour de ça. Et comme il y a des frictions franco-russes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et même avant, en réalité, ça dure depuis bien plus longtemps que ça, mais disons que ça atteint un peu son paroxysme depuis février 2022, et bien évidemment, les auditeurs s'interrogent. Est-ce que RFI, c'est la voix de la France, donc elle fait tout pour salir la Russie ? La réponse est non.
Ce témoignage, on le voit, il est important, on l'entend. C'est pas le premier.
Alors, c'est même pas le premier de ce type sur RFI, puisque ce système, c'est un système international qui ne touche pas que les Africains. Je rappelle qu'il y a quasiment un an, notre confrère Sébastien Farcy avait fait ce travail avec des Népalais, puisqu'au Népal, il y a une association qui s'était montée pour aider des Népalais à revenir de Russie. Et cette association avait recensé plus d'un millier de Népalais qui étaient partis en Russie et ça suivait exactement la même trame. Donc des gens à qui on propose des salaires, 2000 dollars environ pour aller faire du gardiennage, on leur dit pas ce qu'ils vont faire exactement, ils se retrouvent sur le front. Donc là, c'est le premier exemple. Et puis, surtout, les recrutements se sont accélérés au cours de l'année 2024. Et sur les derniers mois de l'année, bah, ça a amené aussi des gens à parler. J'ai eu trois exemples en tête, rien que pour des Africains. Déjà, il y a des prisonniers de guerre russes qui ont parlé dans des médias ukrainiens. Donc, on a notamment entendu un Somalien et un Sierra Leonais qui racontaient à peu près la même histoire, la manière dont ils étaient partis pour devenir concierges et finalement ils s'étaient retrouvés soldats. Donc clairement, voilà, ils avaient été floués, trompés. Il y avait aussi eu dans Jeune Afrique un centrafricain qui avait pu fuir d'Ukraine, qui avait témoigné en disant que lui avait été directement recruté dans un commissariat à Bangui par des gens de Wagner qui avaient soudoyer la police centrafricaine et lui avait donné un contrat pour partir en Russie. Ça avait fait pas mal de foin en Centrafrique, puisque évidemment les autorités avaient dit non, c'est pas vrai, etc. Toujours est-il que ce témoignage, il est là, il existe. Et puis il y avait eu une vidéo de 14 Ghanéens qui appelaient les autorités de leur pays à l'aide, donc on les voyait sur les réseaux sociaux. Ils expliquaient la difficulté de leur vie dans l'est de l'Ukraine. Et donc cette vidéo, elle avait été reprise par des médias nationaux ghanéens et internationaux. Donc le témoignage de Samuel, il vient en appui de ça. C'est pas une première, donc c'est pas RFI qui est à la manœuvre pour déstabiliser la Grande Russie. C'est vraiment, il y a une trame qui se poursuit, même si nous, c'est la première fois qu'on entend un Africain sur notre antenne expliquer tout son cheminement.
Laurent Corot, c'est pas la première fois on l'entend, qu'on a ce genre de témoignage concernant le conflit en Ukraine. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de mercenaires sur l'antenne d'RFI de façon plus globale.
Non, ce n'est effectivement pas la première milice ou le premier groupe de mercenaires dont on décrit les dérives sur RFI. Si vous vous souvenez bien, par exemple, au début des années 2000, à la fin des années 90, début des années 2000, il y avait une société militaire privée américaine nommée Blackwater qui a été présente en Irak et en Afghanistan et qui a été largement critiqué cette société pour les violations des droits de l'homme qu'elle a commises, comme par exemple le massacre, si vous vous souvenez bien, le massacre de la place Nissour à Bagdad en 2007. On avait des hommes de Blackwater qui avaient alors ouvert le feu sur la foule. Ils avaient tué 14 personnes, ils avaient blessé 17 autres personnes. Et donc là, il suffit d'aller sur le site internet de RFI pour voir la production que nous avons eue à l'époque sur Blackwater. Il y a d'autres groupes encore dont nous avons parlé. Si on prend Executive Outcomes, par exemple, les Sud-Africains qui ont envoyé des mercenaires dans les années 90 en Angola et en Sierra Leone. Executive Outcomes, là aussi, a été accusé de violation des droits de l'homme. Et là aussi, RFI a assuré la couverture de ce qui se passait sur le terrain. Donc, Wagner ne bénéficie pas, si vous voulez, d'un traitement particulier. Nous traitons ces agissements parce que Wagner est une société paramilitaire qui a commis ces dernières années de nombreuses violations des droits de l'homme sur le terrain, notamment au Mali et en République centrafricaine. Elle le fait par ailleurs sous le regard des autorités qui ont fait appel à ses services. Et donc, effectivement, tout cela fait qu'il est important que RFI parle de ces sujets. Et nous parlons peut-être effectivement plus de Wagner que d'autres sociétés privées ou d'autres groupes paramilitaires, parce que le nombre de violations des droits de l'homme commis par Wagner est extrêmement important. Il faut d'autant plus parler, je crois, de Wagner et de ce système de mercenariat mis en place par les Russes en Afrique, que cette structure est entourée de tout un écosystème qui, lui, est bien, effectivement, une machine de propagande et qui tente de diffuser l'image d'une présence de Wagner, Africa Corps, bienfaisante en Afrique. Et du coup, ça ne me surprend pas vraiment que nous soyons pris pour cible sur les réseaux sociaux, que nous subissions ce feu croisé. Il y a effectivement cette machine de propagande et Wagner finance des influenceurs africains, des journalistes africains pour décrédibiliser l'Occident et faire la promotion de l'action de ces hommes, de ces mercenaires sur le terrain. Je vous invite d'ailleurs à lire sur notre site l'histoire d'Ephraim Yaliké dont François a pu recueillir le témoignage. Ephraim Yaliké, en fait, c'est un journaliste centrafricain qui a accepté de devenir un rouage, si on peut dire, de la propagande du groupe Wagner à Bangui et qui, après avoir quitté la Centrafrique de manière clandestine il y a quelques mois, a accepté de nous raconter comment les choses se sont déroulées.
François, vous nous parlez un petit peu de cet article consacré à Ephraim Yaliké.
Oui, c'est même une série d'articles, puisqu'il y a le témoignage d'Ephraim qui raconte sa vie, qui raconte comment il a été recruté par les Russes en Centrafrique, ce qu'il a fait pour eux et pourquoi il les a quittés. Alors, ce qu'il a fait pour eux, c'est deux choses principalement. C'est de la propagande, c'est-à-dire placer dans des journaux des articles favorables au groupe de mercenaires russes, y compris en y glissant de fausses informations que ses employeurs lui avaient demandé de faire infusé dans le débat public, comme on dirait. Et puis la deuxième chose, c'est participer à l'organisation de fausses manifestations visant la France, les États-Unis, les Nations Unies. Donc il nous a bien expliqué le mode opératoire. Donc il contacte des groupes de jeunes qui sont payés pour se retrouver à un certain endroit. Les Russes impriment les banderoles, impriment les cartons, on fait un petit happening, comme on dit en bon français, on prend quelques bonnes images, quelques bonnes photos, et ça donne l'impression qu'il y a une manifestation tout ce qu'il y a de plus spontané pour dénoncer la MINUSCA, la force de l'ONU, la France, les USA, etc. Alors que, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ça coûte pas très cher aux Russes, c'est ça qui est intéressant, ça coûte pas très cher, mais ça a un effet très important parce que ça permet d'être diffusé par de multiples canaux, que ça soit dans le pays, mais aussi ensuite c'est repris par tout un écosystème qui est quasiment en Afrique, un peu partout, et jusqu'en Russie avec des agences de presse, etc. Donc ça a une diffusion au niveau international. Un petit point sur les exactions de Wagner dont parlait Laurent, ce qui est important de dire, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas RFI qui les documente, ce sont des organisations de société civile, souvent locales, donc des gens qui connaissent le terrain mieux que quiconque, soutenus par des groupes de défense des droits de l'homme, souvent déjà en premier lieu africains ou internationaux, et puis surtout, c'est dans les rapports des Nations Unies. Donc ce sont des experts indépendants, spécialistes qui écrivent noir sur blanc ce qui se dit. Quand on parle de la République centrafricaine, quand on dit sur l'antenne qu'il y a des mercenaires de Wagner qui violent en République centrafricaine jusqu'à des militaires centrafricains. C'est pas RFI qui le dit, c'est l'expert indépendant de l'ONU qui l'écrit noir sur blanc dans son rapport.
On l'a compris en vous écoutant, François, Laurent, vous l'avez dit l'un et l'autre, il y a quand même une guerre informationnelle qui est en cours.
Il y a une guerre informationnelle qui est en cours. Ce qui est important à dire, c'est que dans cette guerre informationnelle, RFI n'a pas d'agenda. Nous cherchons justement à nous extraire de cette guerre informationnelle. Nous cherchons à vérifier les informations qui circulent. Il faut donc être prudent. Il faut faire en sorte de ne pas être manipulé. Mais c'est notre préoccupation constante, ne pas être manipulé par aucun camp, ni les pro-russes, ni les anti-russes. Cela, en tout cas, ne doit pas nous dissuader de faire notre travail, de dénoncer le comportement de Wagner Africa Corp sur le terrain quand il est nécessaire de le dénoncer. C'est important, j'insiste là-dessus, nous ne pratiquons pas à RFI le journalisme patriote, nous ne choisissons pas de camp, nous pratiquons le journalisme tout court, un journalisme qui est fidèle aux faits et qui vise à fournir au public matière à réflexion.
Merci Laurent Corot, François Mazet.
Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas compris ce qu'il a dit.
Moi, je suis une ch'ti, je viens du Nord et je le confirme.
Pendant des années, en fait, on était un accent. Les gens, ils nous prenaient pour des idiots, à la limite, comment parler et tout ça.
Vous l'avez, l'accent ? Vous pensez beaucoup ou pas ?
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense un peu, ouais.
Voilà. moi, je m'entends pas. Pour moi, je parle normalement.
Si j'ai bien compris, personne ne comprend ce qu'il dit.
Pourquoi RFI dit ça comme ça ? Bonjour Frédéric Genoux.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on dit et comment on le dit ? Avec ou sans accent ?
Vous avez remarqué que dans les radios et les télévisions de France métropolitaine, il y a une façon de parler que l'on peut qualifier de neutre. C'est ainsi dans de nombreux pays. Chez nos voisins britanniques, qui ont une langue indiquant à la fois la provenance régionale et sociale de ses locuteurs, il y a également le RP, Received Pronunciation, qui décrit l'anglais standard et qui est également appelé BBC English, l'anglais de la BBC, que l'on entend principalement à la BBC, jamais dans la rue.
Alors, ce n'est pas le cas à RFI et en France, plus généralement.
Non, parce qu'en France, on n'est pas toujours fiers de son accent. Les jeunes le perdent assez naturellement à l'école ou bien apprennent à s'en défaire plus tard pour des raisons professionnelles. L'accent, ce n'est pas toujours élégant, je le dis avec des guillemets, bien sûr. Tout comme le beau qui n'existe que par rapport au laid, l'accent n'existe que par rapport à une norme. Pendant quelques siècles, la norme, c'était la façon de parler des aristocrates, qui étaient minoritaires dans le pays. À la Révolution française, les aristocrates ont disparu, c'est l'accent de la bourgeoisie qui est devenu la référence, et puis cela a été la langue des gens cultivés. Aujourd'hui, d'après les linguistes, ce sont les médias et le monde de la culture qui donnent le « là » et ils sont, en général, basés à Paris.
Alors cet accent standard, ce serait celui de Paris ?
Oui, même s'il est beaucoup moins facile à définir que des accents plus pittoresques comme celui du Nord où on va dire « chepo » pour « je ne sais pas »,« eula » à tout bout de champ en Normandie, voire « rouler les R » comme quand vous pratiquez l'hospitalité bourguignonne, bouteille sur table et cœur sur main. Je vous entends pouffer, Juliette, c'est bien cela le problème. Les accents peuvent attirer la sympathie et une certaine reconnaissance régionale, mais ils ne font pas sérieux. C'est la raison pour laquelle ils perdurent, souvent seulement chez les personnes âgées ou dans le monde rural.
Et c'est valable pour tous les accents, Frédéric ?
Pas tout à fait, car il y en a deux ou trois qui sont populaires. Ceux de la Provence et du Sud-Ouest, des villes de Toulouse et Marseille, qui évoquent les cigales, le soleil et donc les vacances. Alors que d'autres accents de régions ensoleillées, celui des Antilles par exemple, n'ont pas la même image. À RFI, comme dans tous les médias audiovisuels, les accents régionaux qu'on peut identifier sont ceux du Sud. Nous avons quelques journalistes qui disent jaune et rose pour jaune et rose. Mais à RFI, il n'y a pas que des francophones de naissance. Nous avons des anciens correspondants qui ont rejoint les équipes parisiennes et qui viennent de tous les continents. Et puis, il y a les anciens journalistes de ce qu'on appelle les rédactions de langue. Leur langue maternelle est l'allemand, le serbe ou le croate, l'albanais ou l'arabe, autant d'accents que l'on entend chaque jour à l'antenne.
C'est important de les entendre.
Oui, parce que c'est un moyen de combattre la glottophobie. La glottophobie, vous le savez Juliette, c'est le fait de se moquer de quelqu'un en raison de son accent. S'il y avait plus d'accents tolérés, on serait plus ouvert à l'autre et on aurait une langue plus riche et plus agréable.
À bientôt Frédéric, sans accent. Pourquoi RFI dit ça ? À la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.